Bonjour à tous. Merci Père Clément pour cette introduction à cette matinée. Tout le monde entend bien? Je parle à distance correcte. Il faut dire que je ne suis pas un habitué de ce genre d'intervention, donc si je commets quelques impairs, je vous prie de m'en excuser par avance. Pour me présenter d'ailleurs, parce que bon, certains d'entre vous me connaissent, mais pas tout le monde, je m'appelle Bruno Balpétré, j'ai 47 ans. Je travaille donc depuis 22 ans au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, principalement au service de gériatrie, principalement auprès de personnes qui sont atteintes de troubles neurodégénératifs, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie frontotemporale, AVC, etc. Voilà, donc j'ai été sollicité par Rosine de Romemont pour faire part un petit peu de mon vécu en tant que soignant et de ce regard que l'on peut capter chez la personne malade et parfois même chez les soignants, parce que ce regard, nous l'avons aussi tous ici présents. D'ailleurs, avant de parler des gens qu'on soigne, moi je vais parler de nous, c'est-à-dire de vous, de moi, parce que la relation part aussi de nous. J'ai préparé un petit travail là, donc je vais piocher dedans au fur et à mesure que je vous parle. Après il y aura des questions. Rassurez-vous, c'est pas très long, hein, je ne vais pas vous monopoliser la plus grande partie de la matinée. Mais voilà, c'est mon approche, donc quelque chose de propre qui m'appartient. Donc chacun piochera dedans ce qu'il souhaite y chercher. Ce n'est pas des vérités absolues du tout. C'est simplement le partage d'une expérience de vie, de ce que je vis depuis déjà longtemps. Et j'espère que ça vous apportera quelque chose. Dieu nous veut tous différents depuis notre naissance. Et puisqu'il est question du visage, il nous a donné un visage qui est unique, malgré nos ressemblances. Cela depuis que nous sommes nés. Nos traits soulignent notre appartenance à une tribu, à une ethnie, à une famille. C'est la partie du corps qu'on habille le moins, mais que l'on grime volontiers pour paraître autre ou pour estomper la marque du temps. Le visage porte parfois les marques de notre parcours. Et c'est le plus évident, du moins pour les autres, de nos moyens d'expression. Car à moins de passer nos journées... Bien sûr. Bien sûr. Je disais donc que le visage, c'est le plus évident de nos moyens d'expression. Car à moins de passer nos journées à nous regarder dans une glace, nous sommes bien loin de maîtriser à fond les expressions de notre visage. Cette partie du corps devient bien involontairement le reflet le plus évident de nos sentiments les plus profonds. Cela, souvent à notre insu. Et c'est avec cet attribut parfois embarrassant que nous paraissons au monde. Alors vous allez me dire, Dieu dans tout ça, puisque c'est bien de lui dont il est question, c'est pour ça que nous sommes ici aussi ce matin. Dieu, il joue à cache-cache. Il se dérobe ou se montre au gré des circonstances et dans la mesure où nous en avons conscience. Seulement voilà, l'hôpital, c'est par définition un lieu où on soigne. Et donc où l'on souffre. Et où il est parfois compliqué de rechercher une telle présence. Il est souvent si bien caché qu'on le croirait absent. Alors quoi ? Dieu, il est dans cet individu amaigri et inerte, ce patient affublé de tuyauteries et de perfusions diverses, ce corps d'autant moins reconnaissable qu'il n'est que plaies ou hématomes, ou bien encore ce vieillard hagard dont les plus proches sont devenus des inconnus. Dieu n'est pas dans l'ouragan. Sa présence intense, tout autant que discrète, se vit plus qu'elle ne se voit. D'autant plus qu'elle peut se manifester autant en l'autre qu'en nous-mêmes, cette présence. Fais de moi un instrument de ta paix. Celui qui se trouve face à nous, tout diminué qu'il paraît, n'est rien moins que celui par lequel Dieu manifeste sa miséricorde. Il est le révélateur de cette bonté qui se trouve en chacun d'entre nous. Nos regards, nos gestes et nos paroles peuvent devenir les signes de sa présence chez le moins bien portant des deux. C'est cette réciprocité qui peut être la source d'instants uniques, au cours desquels on ne sait plus très bien qui est le malade. L'harmonie, alors, consiste peut-être à distinguer dans le regard de l'autre un peu de cette lumière que nous connaissons bien et que parfois nous avons tendance à oublier. Loin de moi, cependant, l'idée de faire de chacun d'entre nous le jouet et les guider d'une volonté supérieure, et par cela nous gonfler d'orgueil, ou au contraire nous avilir à l'état de pantin docile. Il est toujours facile de donner des conseils, j'éviterai de vous en donner, car certaines situations vécues à l'hôpital peuvent nous confronter à nos limites quand elles deviennent trop difficiles à vivre. Nous sommes simplement humains, mais surtout, et votre présence à tous le prouve, nous ne sommes pas seuls. Et en aumônerie, comme chez les paramédicaux, la notion d'équipe prend aussi tout son sens quand il s'agit de passer le relais d'une situation trop compliquée. Mais dans la prière que chacun de nous peut formuler, on peut tous dire en toute humilité, voilà, que mes mains, mon visage, mon corps reflètent ta présence, Seigneur, et te permettent de rendre le monde un peu meilleur. Ça va ? Pas toujours facile d'être réceptif à une telle présence, fût-elle divine, dans cette ruche bourdonnante qu'est l'hôpital. L'ampleur de la tâche est vite démesurée quand il s'agit de soigner. Personnellement, plonger dans cet univers s'apparente un peu à une immersion avant laquelle une grande inspiration est nécessaire, sinon vitale. Cette respiration, c'est à l'air libre qu'il faut la trouver, auprès de ceux que nous aimons. C'est cette vie du dehors qui donne sa consistance à notre personne. C'est là aussi qu'il nous faut puiser les signes que Dieu nous envoie, nous charger de cette énergie positive qui nous pousse en avant. La frontière entre le dehors et le dedans, pour nous, enfin pour moi plutôt, ça ressemble à s'y méprendre à une porte de vestiaire. C'est très utile, une porte de vestiaire. En métal, ça grince, ça fait du bruit. C'est la transition entre la vie du dehors et celle que nous retrouvons presque chaque jour. Nous laissons là, et il le faut, nos contraintes et nos soucis pour étreindre ceux que nous allons retrouver. Et quand la porte du vestiaire se referme en grinçant, elle claque, parce qu'on est toujours pressé. Elle claque, mais elle résonne comme une évidence en nous disant « Allez, au boulot, il s'agit d'aimer. » En guise de conclusion, et tout aussi importante que le visage, les mains ont aussi leur mot à dire. J'aurais pu aussi vous parler des mains, mais il est question de visage, donc pas de digression aujourd'hui. Alors en guise de conclusion, j'aimerais dire ceci. Dieu, pour faire avancer l'homme, malade ou bien portant, le mieux possible, sur ses chemins, lui a donné la panoplie dont rêvent tous les bricoleurs. De la lumière, avec nos visages, et nos regards, et deux outils. Alors au travail. Merci de votre attention.
Donc nous allons étudier ensemble ce texte pour essayer de voir comment la rencontre de la personne fragile c'est vraiment, réellement, la rencontre de Dieu. La rencontre du frère devient sacrement, présence efficace, féconde de Dieu. Premièrement, le contexte. Nous sommes dans le chapitre 25. En toute logique, ça suit le chapitre 24, qui est une annonce de la fin des temps. Il y a des enseignements et des images. Le chapitre 25 est composé de trois grands textes. Il y a deux paraboles, les 10 vierges, du verset 1 à 13, et la parabole des talents, que nous avons reçue dimanche dernier, verset 14 à 30. Et puis, nous avons un texte qui n'est pas une parabole, mais qui est plutôt un texte comme une vision, un récit de type apocalyptique, un texte de révélation. Il y a trois arguments qu'on peut poser pour affirmer cela. Le premier argument, c'est que les deux paraboles, juste avant, commencent par une formule d'introduction que l'on retrouve souvent, du style « Alors, semblablement, sera le royaume des cieux à 10 vierges. » Et pour la parabole des talents, c'est comme un homme qui part en voyage et qui appelle ses serviteurs. Or, nous n'avons pas cette formule d'introduction dans le texte que nous avons gestué tout à l'heure. Deuxième argument, le chapitre 24 se termine par la formule « Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents ». Et cette formule se trouve juste avant notre texte. Et donc, il faudrait raccrocher les deux paraboles qui sont juste avant notre texte avec celle du chapitre 24. Mais l'argument le plus important, c'est que Jésus emploie l'expression « Fils de l'homme ». Et cette expression, Jésus l'utilise toujours pour se nommer lui-même. C'est dans ce seul sens qu'il l'emploie dans l'ensemble des évangiles. Jésus parle de lui-même. Souvent, ce texte est appelé le jugement dernier, mais si les arguments sont justes, il ne s'agit pas forcément de cela. Bien sûr, il s'agit aussi de cela, je veux dire. La grande tradition de l'Église le nomme comme ceci. Mais on peut vraiment penser qu'il s'agit d'un texte de révélation ultime avant la Passion. Au chapitre 26, il est dit, chapitre 26, verset 1, donc juste après notre texte, « Et il arriva, quand il eut achevé toutes ses paroles, il dit à ses disciples, « Vous savez que dans deux jours, c'est la Pâque, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Jésus, maintenant, va montrer qui il est, non pas par des paroles, il y en a quelques-unes, mais par des gestes, par la croix. Ce texte, à sa manière, nous dit qui est Jésus et qui est Dieu et jusqu'où est allé l'engagement de Dieu pour la création. Jésus est allé jusqu'à la mort, jusqu'à disparaître par manque de fraternité. Voilà l'introduction générale. On va... Prenez vos feuilles et puis on va juste essayer de voir comment est désigné le personnage central. Premièrement, vous avez là, donc c'est, qui est derrière le... Feuille blanche. Donc, qu'est-ce que nous avons comme expression? D'abord, on a, j'en ai parlé, l'expression « Fils de l'homme ». C'est Jésus. Okay? Jésus ne s'est jamais dit « Fils de Dieu », mais il a parlé de son Père. Extraordinaire. Et le Père a parlé de Jésus comme de son Fils, bien sûr. Mais il est « Fils de l'homme ». C'est son titre de gloire. Ensuite, et alors même dans le verset 32, qu'est-ce qu'on a comme indication? On a le berger, bien sûr. Berger, et comme on connaît tous notre Bible, berger, c'est roi d'Israël, c'est le Messie, c'est, vous voyez, c'est chargé de tout ça. Ensuite, alors on a, au verset 34, on a le roi, tout à coup. Vous voyez, le titre de ce personnage central qui rassemble, qui est devant toutes les nations, eh bien, c'est le roi. Et qu'est-ce qu'il est, ce roi ? Au verset 34, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Alors, il est roi, et qu'est-ce qu'il dit ? Venez les bénis de mon père. D'accord ? Ça veut dire qu'il est fils. Ok ? Nous avons un roi, nous avons un fils de l'homme, qui est berger, qui est roi, et qui est fils du père. De mon père. Ça va ? Ensuite, verset 35, qu'est-ce qu'on a comme identité de ce personnage ? À votre avis. Il y a tout à coup un jeu. Dieu s'exprime en je par Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va dire comme situation ? Que des situations de précarité. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger. J'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Tout à coup, dans la Bible, apparaît un je, ce je énigmatique, ce je qui va dire Dieu à travers les situations de misère et de pauvreté. Ensuite, verset 37. Alors, mais pour désigner toujours le personnage, eh bien, tout à coup, il va être appelé Seigneur, Kyrios. C'est le mot qui est utilisé pour traduire le nom du Dieu d'Israël en grec. Le nom imprononçable, Yod E Vav E, c'est traduit dans la traduction grecque par Kyrios, Seigneur. Ensuite, au verset 40, ce sera encore le roi. On a toujours le roi qui est là. Et tout à coup, ce roi, il ne va pas seulement être fils de mon père, qu'est-ce qu'il va être ? À l'un de ses petits qui sont mes frères. C'est à moi. Alors vous voyez comment... c'est une merveille, hein, c'est une cathédrale ce texte. Comment ce texte travaille, vous voyez, l'identité de Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Et tout à coup, il va être le frère de ces petits qui ont vécu toutes ces situations de précarité. Et ensuite, verset 41, vous avez vu la disposition, hein, parce que c'est des très très beaux balancements pour être mémorisés. Hein, voilà. Verset 41, qu'est-ce qu'on a ? Tout à coup, on a un « il ». Quand même, ils auraient pu écrire « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa gauche ». Eh ben non. Tout à coup, il y a un pronom impersonnel. Qui c'est ce « il » ? Il va s'adresser à ceux de gauche et pas à ceux de droite. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Allez-vous-en. Alors que le roi avait dit à ceux de droite, venez les bénis. Allez-vous-en loin de moi, maudits. Et heureusement qu'on n'a pas de mon père. Heureusement qu'on n'a pas de mon père. Vous voyez ce texte, la précision. Le roi dit à ceux de droite, venez les bénis de mon père. Et à gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits. Pas par mon père. Pas par mon père. Maudit par qui ? Le texte ne le dit pas. Et il les envoie dans le feu éternel qui est préparé pour qui ? Pour le diable et pour ses anges, alors que le royaume est préparé pour vous, les justes. Ensuite, il y a toute cette, de nouveau, cette identité avec ceux qui souffrent, avec toute cette réponse négative. Et au verset 44, qu'est-ce qu'on va avoir ? alors eux aussi. On aurait pu quand même, l'auteur de ce texte aurait pu quand même écrire, alors les injustes. Eh bien non. On a tout à coup, eux aussi, un eux impersonnel. Et ensuite, verset 45, alors il leur répondra, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, et le texte ne dit pas qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qu'on peut... Vous voyez, c'est de la dentelle, c'est de la sculpture, ce texte. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Eh bien, lorsqu'il y a acte de justice et de charité, alors il y a des justes, il y a une existence, alors il y a le Fils de l'homme, alors il y a le roi, le berger, il y a le Fils du Père, et il y a le frère universel, qui est le Christ. Il n'y a qu'un un frère universel, c'est le Christ. Voilà. Puis après, il y a Saint François. Mais vous voyez que lorsqu'il y a attention à l'autre, rencontre, toucher, on a parlé tout à l'heure, eh bien, il y a Dieu qui est rendu présent. Dieu advient lorsqu'il y a ces actes de justice et de charité. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de fraternité, on a l'impression que Dieu disparaît de notre histoire. Et pas seulement ça, l'humanité disparaît. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a même pas d'injuste, il n'y a plus rien. C'est comme, vous voyez, pour ceux de gauche, c'est comme un phénomène de néantisation. Il n'en reste rien, même pas quelque chose de mauvais, il n'y a plus rien. Donc, ce texte peut vraiment nous dire que ce qui fonde notre humanité, ce qui fonde la présence du Christ dans le monde, c'est le service. Et à la fin, au verset 44, hein, « Quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» En grec, c'est la diaconie, c'est le diakonos. Ça va ? Ça veut dire que on pourrait vraiment se dire qu'il y a une relation profonde, il y a comme une tension entre, d'une part, le Christ, maître, seigneur, ressuscité, vivant, qui, au cœur de l'Église, envoie en mission. Mais dans le même temps, il y a aussi ce Christ souffrant dans les périphéries, tout au loin, qui appelle. Vous voyez, il y a dans la foi chrétienne, il y a comme une tension entre un Christ qui envoie, qui est Seigneur et Maître, et qui est le vivant, et qui est vraiment le Seigneur, mais aussi le Christ qui est souffrant, sans justification à sa propre vie, et qui appelle. Jean 23 était jusqu'à dire « Les pauvres sont sacrements ». Quand il y a rencontre, vous voyez, les pauvres ne sont pas meilleurs que les autres. On a tous nos misères et nos faiblesses et nos limites et notre péché. Mais ils sont le lieu où le Christ se révèle et où le Christ peut rassembler une communauté. C'est pour ça qu'il y a, on voit bien dans les actes des apôtres et dans les épîtres, une tension entre la lettre de Pierre, où il parle d'une église pauvre et servante, pauvre et souffrante, et les communautés pauliniennes, où il y a une action, où il y a une visibilité, vous voyez. Et dans notre Église, et le mouvement de l'Eucharistie, c'est ça aussi. C'est à la fois un rassemblement, Voilà. Et nous devenons corps du Christ parce que le Christ se donne au Père, et de nouveau un mouvement de reflux, de mission dans le monde. Alors, est-ce que ça va ? Je vais arrêter. Je voudrais vous citer deux phrases. La première, c'est avant qu'il soit le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger a écrit ceci. Seul célèbre réellement l'Eucharistie, celui qui l'accomplit dans cet autre sacrement qui est le service du frère. Benoît XVI va très très loin. Vous voyez, il y a comme un balancement entre la diaconie et l'Eucharistie. Que sont nos célébrations quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de fraternité au nom du Christ? Qu'est-ce que c'est notre fraternité quand il n'y a pas cette reprise dans l'Eucharistie où Jésus se donne au Père et à nous? Il y a une autre phrase que j'ai notée, qui était que le pape François a dit le 21 novembre. Voilà. Il a dit ceci: toute la diaconie de l'Église a son cœur battant dans le mystère eucharistique, et qu'il se réalise d'abord dans le service des pauvres qui portent en eux le visage du Christ souffrant. Ça fait 3 jours que le pape nous a dit ceci. Je relis. Donc, toute la diaconie de l'Église à son cœur battant dans le mystère eucharistique, hein, c'est l'Église qui fait Eucharistie, et c'est l'Eucharistie qui fait Église, mais, rajoute le pape, et qu'il se réalise d'abord dans le service des pauvres qui portent en eux le visage du Christ souffrant. Je voudrais terminer juste sur un élément sur la vie de l'Église. D'après le texte, si nous comprenons ce texte de cette manière-là, nous pouvons dire que notre relation aux pauvres, aux souffrants, aux malades, n'est pas d'abord quelque chose d'éthique, de moral. Vous savez, on est bien, on est chrétien, donc il faut que j'aime les pauvres. Mais on est plutôt dans un rapport qui est théologique, qui est théologal et ecclésial. Ce n'est pas « on est bien, ça fonctionne bien, alors il faut aider les pauvres » pour nous devenir encore plus saints. Non, il s'agit rien de moins que de faire advenir Dieu dans notre histoire, dans notre monde. Il s'agit de rencontrer et d'apprendre des pauvres. Pourquoi ? En Matthieu 11, 25 et Luc 10, eh bien, il y a l'exultation de Jésus, et Jésus fait des pauvres les détenteurs des secrets du Père. Je te rends grâce d'avoir révélé ceci aux petits. Et ensuite, les pauvres sont indispensables pour l'unité de l'Église. Retournez au texte de 1 Corinthiens 12, 22-25. Il faut donner plus d'honneur à ceux qui en manquent pour l'unité du corps. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une option préférentielle pour les pauvres, mais il s'agit d'une nécessité pour l'Église, pour nos communautés, de se reconnaître dans les pauvres, d'y reconnaître notre Seigneur et le mettre au cœur de nos communautés.
Yeah. Madame Meunesse bouche bée, mais peut-être pas vous. Peut-être que vous avez des questions à lui poser. Peut-être un petit temps pour accueillir ce qui vient de nous être dit. Et puis ensuite, un petit temps d'échange avec Pierre. On prend déjà un tout petit temps de silence pour accueillir ce qu'on vient d'entendre.
Jésus, il est catégorique, il place les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Mais alors, est purgatoire.
Le texte n'en parle pas. Voilà. Donc je ne vais pas m'engager sur ce terrain, mais ce que je veux juste dire, c'est que il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a un moment donné, il y a la vérité qui se fait jour. Voilà.
Oui, je m'interroge sur la notion de pauvre. Le pauvre, c'est celui à qui manque quelque chose. Donc je pense qu'on en est tous, qu'il nous manque tous quelque chose. Et alors là, à la suite, là, le pauvre me révèle le visage de Dieu. Donc ça veut dire que si on ne se reconnaît pas pauvre, eh bien, on ne va pas nous non plus révéler le visage de Dieu.
Et puis ça nous révèle un Dieu pauvre. Alors quand je dis ça, ça n'enlève rien de la puissance de vie de Dieu. Mais c'est précisément qui me voit mon Père. Donc, et qu'est-ce qu'on voit, ce Jésus avec ses actes de puissance qui accepte la kénose, qui accepte la descente jusqu'à la mort, la torture et encore plus bas. Ça, c'est notre credo. Et il nous révèle son Père. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Et donc, il n'y a que quand nous-mêmes, on accepte de considérer notre péché, nos limites, notre sottise, qu'on peut rencontrer réellement les autres et apprendre des plus fragiles. C'est sûr, hein, quand on les invite au festin, il y en a qui ont autre chose à faire, qui sont pleins, et d'autres qui n'ont rien que Dieu et que l'appel de Dieu. Et donc ils y vont, dans la salle du festin.